السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جیسا کہ ہم جانتے ہیں
Nous savons très bien que les membres des Jamaat divines ont les mêmes responsabilités que les fondateurs de ces communautés, c'est-à-dire ils ont les mêmes responsabilités que les prophètes, à savoir qu'ils doivent inviter les gens vers Dieu et ils doivent aussi montrer aux gens les erreurs qui ont terni les enseignements de leur foi, ces fois qui se sont corrompues davantage après le passage du temps, et doivent les mener vers la voie de la vérité. L'histoire des religions du monde démontre que lorsque les prophètes et leurs suivants, qui étaient peu en nombre au tout début, ont lancé cette mission, ils ont dû faire face à une tempête d'opposition. Et les pharaons de l'époque, leur Haman et leur clan, ont remué ciel et terre afin d'anéantir la communauté des prophètes et leurs suivants. Voilà donc comment les religions ont été traitées dans le passé. Cela a été l'histoire de toute religion tant que ses suivants ont suivi les enseignements authentiques de ces religions. Telle est la sunna de Dieu, telle est la pratique de Dieu, et c'est ainsi que le saint prophète, paix sur lui, devait être traité par ses ennemis. Il a été traité ainsi, et cela en dépit du fait qu'il était le bien-aimé de Dieu, en dépit du fait qu'il était le choisi de Dieu. Il n'y a pas eu d'exception en son cas. Au contraire, il fut éprouvé, il est passé par des difficultés, il est passé par des souffrances et il a dû faire face à des armées. Et on ne voit pas d'exemple comparable dans la vie des autres prophètes. En dépit de ces souffrances, La patience et la persévérance du saint prophète Mohammed lui étaient sans pareil. C'est pour cette raison qu'il a eu du succès face à ces épreuves. Et il a insufflé le même esprit d'une foi ferme et d'une persévérance de roc en ses suivants. Il a insufflé le même esprit de progrès en ses compagnons. Et aucune blessure, aucune souffrance, aucun manque d'effectifs ou d'armes n'a fait flancher ses compagnons dans leur foi. Le Saint-Coran décrit la foi de ces personnes. Par exemple, dans la sourate Al-Imran, au verset 173 et 174, Allah déclare « Alladhina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim. » Quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, ceux d'entre eux qui font le bien et qui se conduisent en juste seront bien récompensés. Ensuite, il est dit dans le verset suivant, Alladhina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ceux à qui l'on disait, des hommes se sont massés contre vous, craignez-les donc. Mais cela n'a fait qu'accroître leur foi et ils dirent, Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Nous voyons donc l'exemple de cette foi ferme et de cet esprit de sacrifice pour la cause de Dieu au cours de la bataille d'Uhud. Lorsqu'en raison des erreurs d'un détachement de musulmans, les musulmans ont subi un revers alors qu'ils étaient sur le point de remporter la bataille. L'ennemi a eu l'occasion de lancer un nouvel assaut et beaucoup de musulmans ont perdu leur vie. Même le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, fut blessé. Il avait perdu une de ses dents. Au cours de cet assaut, les compagnons formèrent une mur solide autour du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et personne n'a pu les ébranler. Sans se soucier de leur vie, ils ont tenu en échec toute attaque lancée par l'ennemi sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et c'est là un fait extraordinaire dans l'histoire de la religion. Apparemment, l'ennemi a eu une certaine suprématie suite au deuxième assaut qu'ils ont lancé, mais d'un point de vue militaire, ce ne fut pas là une victoire. Lorsque l'armée mécoise retournait du champ de bataille vers la Mecque, certaines tribus arabes les ont narguées en leur disant que vous faites des déclarations grandiloquentes. Vous avez déclaré que vous êtes vengé de l'échec subi à Badr. Est-ce cela une victoire? Vous n'avez pas eu de butin, vous n'avez pas pris de prisonniers et vous dites que vous vous êtes vengé des musulmans. En entendant ces paroles, les incroyants ont décidé de retourner vers le champ de bataille et de lancer un nouvel assaut contre les musulmans qui étaient meurtris et fatigués. Ils voulaient les attaquer afin de remporter une victoire complète. Mais ils étaient indécis et se sont divisés en deux camps. Il y avait ceux qui se disaient qu'on devait se contenter de cette victoire qu'ils venaient de remporter, car s'ils vont lancer une nouvelle attaque, d'autres musulmans qui n'ont pas participé à la bataille d'Uhud vont venir se joindre à eux. Et en s'attaquant à la ville de Médine, ils vont tous se battre jusqu'au dernier. Le saint prophète Mohammed lui a eu vent de l'intention de l'ennemi et le lendemain, il a réuni ses compagnons et ils ont décidé de poursuivre l'ennemi. Il a demandé aux musulmans de se préparer pour cette attaque et il a mis cette condition que seuls ceux qui ont participé à la bataille la veille vont participer dans cette poursuite. Imaginez leur situation. En raison de la bataille de la veille, ils étaient fatigués et la majorité d'entre eux étaient blessés. 250 musulmans ont quitté Médine pour aller rencontrer l'ennemi et ils sont sortis avec la joie d'une armée victorieuse à la poursuite d'un ennemi en déroute. Le saint prophète Mohammed lui a établi son camp à quelques kilomètres hors de Médine, dans la région de Hamra al-Assad. Et il a donné l'ordre aux musulmans d'allumer des feux dans 500 endroits différents. Lorsqu'on a allumé ces feux, cela a effrayé ceux qui ont vu ce feu de loin. Les chefs de la Mecque ont décidé donc qu'il valait mieux retourner à la Mecque au lieu de faire face à une nouvelle attaque. Et lorsque le saint prophète a su que l'armée ennemie a quitté l'endroit, le saint prophète est retourné à Médine après 2 jours et il a déclaré que c'est Dieu qui a inspiré la crainte dans les cœurs des incroyants. Dieu a fait les louanges de ses blessés, ceux qui ont montré cet exemple incomparable de sacrifice. Il a donné la bonne nouvelle d'une grande récompense à ces personnes imbues de taqwa. Abu Sufyan a lancé un défi en disant que l'année ensuite, nous allons nous battre contre les musulmans sur le champ de bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed lui a accepté ce défi et en l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a préparé une armée de 2500 soldats et ils sont partis dans la direction du champ de bataille de Badr. Et Abu Sufyan avait préparé 2000 soldats. Mais il avait peur que son armée ne suffira pas face à l'armée de musulmans. Ils avaient des espions et ils savaient très bien combien d'hommes se préparaient du côté des musulmans. Et il a décidé d'employer une ruse et envoyer une personne à Médine pour effrayer les musulmans en répandant la rumeur que les musulmans ne pourront pas faire face à l'armée ennemie. Allah déclare que cette propagande de l'ennemi n'a fait qu'augmenter la foi des croyants. Ils ont répondu que Dieu nous suffit, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il nous suffit comme protecteur. En tout cas, 2500 soldats musulmans sont sortis accompagnés de saint prophète Mohammed lui sur le champ de bataille de Badr. Les ennemis sont sortis de la Mecque, mais sont retournés après quelque temps. Ils ont présenté ce prétexte en disant que ce fut une année de famine et qu'ils n'ont pas pu se préparer et qu'ils vont se préparer l'année ensuite. L'ennemi voulait effrayer les musulmans par la ruse, en les effrayant, en leur faisant croire qu'ils avaient préparé une grande armée. Mais la ruse de l'ennemi n'a servi à rien, et Dieu a témoigné en faveur des croyants. À savoir que les incroyants ont peur de la mort, on peut les effrayer par la mort, mais de telles menaces renforcent davantage la foi des croyants. Les musulmans sont partis donc à Badr, et comme je l'ai déclaré, ils n'avaient aucune raison de craindre les Mécois. Les ennemis, au contraire, ce sont les gens de la Mecque qui ont eu peur des musulmans. C'est Dieu qui a inspiré la crainte dans les cœurs des incroyants. Et c'est là l'appel « Hasbuna wa ni'mal wakil » qui est sorti du cœur des musulmans. Et c'est cet appel qui les a fait progresser tout le temps. Des incidents de ce genre sont nombreux. La vie des compagnons du saint prophète Mohammed, paix sur lui, est remplie de tels témoignages. L'ennemi ne pourra jamais s'unir et effrayer les musulmans. Le vrai musulman d'aujourd'hui doit lancer le même appel et doit donner la même réponse. Aujourd'hui, on essaye d'effrayer les membres de la communauté du Messie promis. Mais Allah déclare que les croyants n'ont peur d'aucun groupe, d'aucune assemblée. Ils n'ont peur d'aucune organisation. Ils font tout le temps preuve de patience et de persévérance et continuent tout le temps à renforcer leur foi. Ils subissent des coups, mais sont persévérants. Ils subissent des pertes matérielles, mais ne flanchent pas dans leur foi. Certains sont tués. On les tue afin d'effrayer leurs proches, leurs parents, leurs épouses, leurs enfants, leurs frères ou leurs sœurs, afin qu'ils abandonnent leur foi. Mais tous ces plans bien ficelés de l'ennemi n'arrivent pas à effrayer les croyants. La réponse des croyants est tout le temps « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et nous suffit comme protecteur. Tout le temps, les croyants regardent dans la direction de Dieu. Lorsque l'ennemi crie au meurtre, les croyants se prosternent davantage devant Dieu. Dans certains pays du monde, les Ahmadis sont persécutés et c'est là une preuve de la véracité de l'Ahmadiyya. Cela doit nous pousser à prier davantage. Malgré cette opposition à la communauté Ahmadiyya, malgré le fait que 73 sectes s'est réunies pour s'opposer à la communauté Ahmadiyya, on n'a pas pu nuire aux Ahmadis au Pakistan. Aux yeux du croyant, les pertes matérielles n'ont aucune importance. La chose essentielle, c'est le trésor de la foi. Et par la grâce d'Allah, après le meurtre de tout Ahmadi, je reçois des lettres de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs proches. Et dans ces lettres, ces gens expriment davantage la fermeté de leur foi et leur sincérité. « Il y a une tempête d'opposition en Inde aussi contre les Ahmadis. Les mollahs se sont réunis afin de détourner les nouveaux venus de leur foi. Cette situation prévalait au Bangladesh et de temps en temps, ils lancent de telles attaques contre la communauté là-bas. Telle est la situation dans certains pays arabes. Les services de l'État essayent d'effrayer les Ahmadis. Cela s'est passé en Syrie, en Égypte et ailleurs. On voit la même situation en Bulgarie. On pousse les Ahmadis afin qu'ils abandonnent leur foi. Le mufti agréé par l'État pousse la police à les persécuter. Et on voit la même chose dans certains États musulmans de l'ex-URSS. Les muftis mettent de la pression sur nos missionnaires et sur les membres de la communauté. On s'oppose donc à la jamaat du Messie du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui dans plusieurs pays du monde et cela prouve aussi que cette communauté vient de la part de Dieu. Et tout le temps, partout, nous avons donné la même réponse, c'est-à-dire que vous pouvez vous opposer à nous, nous allons tout le temps répondre « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit, voilà ce que nous avons appris de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Les Ahmadis doivent tout le temps faire preuve de patience et de tolérance et doivent subir ces persécutions sans rien craindre et doivent renforcer leur foi. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela en disant « Ce verset nous fait comprendre que la racine de la vraie bravoure et la patience et la persévérance. Et que face à toute attaque venant des émotions ou d'un sentiment de désarroi quelconque, on doit faire preuve de patience et de persévérance. On ne doit pas prendre ses jambes à son cou et se sauver dans l'autre direction, tel un couard. Ici, le Messie premier l'Islam nous a fait comprendre qu'à part les ennemis externes, il y a aussi des ennemis internes. Cet ennemi prend la forme de l'émotion ou des sentiments égoïstes qui s'attaquent à nous. Face à cela, on doit être persévérant. Voilà ce qui sied aux croyants. On aura cette force pour faire face à l'ennemi lorsqu'on pourra faire face à ses assauts des sentiments égoïstes. On va progresser dans sa foi lorsqu'on va tout consacrer à Dieu et lorsqu'on va se tourner davantage vers Dieu, lorsqu'on va tout faire pour la cause de Dieu. Si on est complètement épris par les choses de ce bas monde, et si on a été charrié par le flot de ce bas monde, on n'aura pas la force pour faire face aux bandes et aux populaces ennemies, et on n'aura pas la force aussi de faire face aux pertes de vie ou de biens. Il est important aux croyants que de s'aguerrir afin de faire face à cet ennemi qui est l'égocentrisme, afin de faire face aux ennemis extérieurs. C'est cela qui va nous renforcer afin que nous puissions faire face aux ennemis extérieurs. Et c'est là que cet appel Hasbunallah wa ni'mal wakil va sortir de notre cœur et va atteindre le trône de Dieu. Et Dieu va manifester son attribut d'Al-Hasib, une manifestation qui va dépasser notre entendement. Le Messie premier, l'Islam, déclare que vous vous êtes joint à cette communauté, il vous est donc enjoint de pratiquer ses enseignements. Sans souffrance, on ne mérite pas de récompense. Le saint prophète, paix sur lui, a été persécuté pendant 13 ans à la Mecque. Et vous n'avez pas idée de cette souffrance qu'il a subie. Vous n'avez pas subi les mêmes tourments. Mais il a demandé à ses compagnons de faire preuve de patience. Et en fin de compte, tous ses ennemis ont été anéantis. Vous verrez qu'un jour, tous les méchants vont disparaître. Dieu a décrété qu'il va répandre cette jamaat pure dans le monde entier. Aux yeux de vos ennemis, vous êtes aujourd'hui peu en nombre, mais lorsque votre nombre va grandir, ils seront tous réduits au silence. Si Dieu l'avait voulu, ces gens ne vous auraient pas persécutés, ou Dieu n'aurait pas donné naissance à de telles personnes pour vous persécuter. Mais par leur entremise, Dieu veut vous enseigner la patience et la persévérance, et après une courte période, vous verrez que ces souffrances étaient tout à fait insignifiantes. Celui qui vous persécute va soit se repentir ou sera anéanti. Je reçois nombre de lettres dans lesquelles les gens disent qu'auparavant, ils m'insultaient en croyant qu'ils accomplissaient là une œuvre méritoire. Mais maintenant, ces mêmes personnes se sont repenties et ont prêté allégeance à moi. Le Messie premier Islam déclare que la patience et la persévérance est une forme d'adoration. Dieu déclare qu'il récompensera sans compter ceux qui font de bonnes œuvres, c'est-à-dire ses faveurs leur seront accordées sans limite. Cette récompense est accordée uniquement aux persévérants. Dieu n'a pas promis la même récompense par rapport aux autres actes d'adoration. Lorsqu'une personne qui a consacré sa vie au service des autres est persécutée avec acharnement, en fin de compte, Dieu, qui a un sens de l'honneur à son égard, détruit ceux qui le persécutent. Notre jamaat est donc sous le soin de Dieu. La foi se retrouve renforcée lorsqu'on subit persécution et souffrance. Il n'y a rien de comparable à la persévérance. C'était donc le sujet que j'ai choisi aujourd'hui par rapport à l'attribut Al-Hasib. Il y a donc un lien avec l'attribut Al-Hasib et le sujet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la patience et la foi des croyants. Et il est dit que la persévérance des croyants face à l'ennemi les rapproche davantage de Dieu. Et cela les fait comprendre qu'Allah leur suffit. Dans les versets que je vais citer, on trouve mention du but des communautés fondées par les prophètes de Dieu. La tâche de ces communautés est de transmettre ouvertement le message transmis par l'entremise des prophètes. Cette tâche vous incombe et cela ne vous concerne pas si ces gens acceptent le message ou pas, ou comment doivent-ils être traités s'ils n'acceptent pas ce message. Cela concerne Dieu uniquement et Dieu est prompt à régler les comptes. Cela a été mentionné dans ces versets suivants de la sourate Al-Ra'd, dans lesquels Allah déclare « Wa imma nuyannaka ba'da alladhi na'iduhum » أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نعطي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Et que nous te faisons voir pendant ta propre vie l'accomplissement de certaines des choses dont nous les menaçons ou que nous te faisons mourir. Cela fait peu de différence car il ne t'incombe que de transmettre clairement le message et c'est à nous de régler les comptes. Ne voit-il pas que nous sommes à réduire la terre à partir de ses frontières et Allah juge, il n'y a personne pour renverser son jugement, il est celui qui est prompt à régler les comptes. Dans les versets qui précèdent le verset 41 que je viens de citer, on trouve mention du sujet du châtiment de Dieu, à savoir que Dieu sait comment, quand il va châtier les ennemis. C'est lui le maître. Il connaît l'invisible, il connaît le moment où on va mériter le châtiment et qui va mériter ce châtiment. Après une déclaration générale, cela ne veut pas dire qu'il va certainement châtier immédiatement ceux qui ont rejeté ce message. Le châtiment est un signe et le châtiment a pour but la réforme. Allah connaît ceux qui vont cesser leur persécution et qui vont se réformer et qui vont ainsi se protéger du châtiment. Et il sait qui vont goûter au châtiment pour ensuite se réformer. Et il connaît aussi ceux qui ne vont jamais cesser leur opposition, mais qui vont persécuter les autres davantage. Ces personnes seront châtiées en fin de compte. Allah déclare que nous allons montrer au cours de ta vie comment nous allons châtier certains. Certains seront châtiés immédiatement en raison de leurs actions et certains seront châtiés après ta mort. Au cours de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui avait indiqué les endroits où allaient tomber les cadavres d'Abu Jahl ou de Shayba. Dieu savait très bien qu'ils n'allaient pas croire et ils ont été tués selon les prophéties du saint prophète Mohammed lui et on n'a pas pu repousser leur mort. Il y avait d'autres, et ils étaient beaucoup en nombre, ceux qui ont cru plus tard, à l'instar d'Abu Sufyan et d'Ikrama. Ce sont des personnes qui ont participé à des batailles contre l'islam, mais en dépit de cela, ils ont eu la vue sauve et en fin de compte, ils ont accepté l'islam et ils se sont battus pour l'islam. Dieu déclare que la tâche du prophète et de sa communauté est de transmettre le message. Le but premier de ces communautés n'est pas de châtier ou de punir les autres. Le but de ces communautés est de faire en sorte que ces personnes consacrent leur temps à l'adoration de Dieu. Et quant à ceux qui dépassent les limites, il y a les avertissements qui vont s'accomplir. D'autres auront du répit, mais le principe est que ceux qui ont été avertis seront soit châtiés au cours de la vie du prophète ou soit après lui. Ils seront châtiés s'ils ne se réforment pas. Allah sait le mieux où est-ce qu'il va les attraper, ici-bas ou dans l'au-delà. Et il sait le mieux quelle action sera la plus avantageuse, s'ils doivent être châtiés immédiatement ou si on doit leur accorder du répit. Allah déclare que c'est à lui de châtier, c'est à lui de demander des comptes. Si les autres objectent en disant que les prophéties ne se sont pas réalisées, c'est lorsqu'on va se présenter à Dieu que tout sera clair, et c'est là que Dieu va demander des comptes. Aujourd'hui, les détracteurs du Messie premier l'Islam disent la même chose, et nous leur donnons la même réponse. Le Messie premier l'Islam a déclaré que certaines choses s'accomplissent après la vie des prophètes par l'entremise de la communauté du prophète. Et les Ahmadis sont témoins que nombre de ces prophéties sont en train de se réaliser. Chaque jour qui se lève témoigne en faveur de la véracité du Messie premier, l'Islam. Dans le verset suivant, il est dit que les détracteurs déclarent que ceci ne s'est pas réalisé ou cela ne s'est pas réalisé. Allah déclare qu'il ne voit pas que nous sommes en train de réduire la terre. Chaque jour qui se levait était témoin de ce fait en faveur du saint prophète Mohammed peace soit lui. L'islam s'est répandu au cours de sa vie et les ennemis ont perdu du terrain. Les gens de différentes contrées, riches ou pauvres, se sont joints à l'islam et sont entrés dans cette forteresse impénétrable. Et le saint prophète Mohammed peace soit lui a conquis la Mecque et l'islam s'est répandu hors de l'Arabie. Au cours du califat bien guidé et après cela, l'islam s'est répandu davantage. Et lorsque Dieu a décrété que certains méritaient châtiment, il les a châtiés. C'est Allah qui a décrété que les ennemis de l'islam vont perdre du terrain en raison du fait que les gens vont se joindre à l'islam, ou c'est lui qui va les frapper de calamité afin de réduire leur terrain d'influence. Il l'a fait dans le passé et il le fera à l'avenir. Et personne ne pourra arrêter le jugement ou le décret de Dieu. Allah est avec son prophète, qui peut donc entraver son progrès. En disant qu'il n'y a personne pour renverser son jugement, Dieu a réconforté les croyants en disant que vous devez être de vrais serviteurs de Dieu. Si vous êtes de vrais serviteurs de Dieu, vous n'aurez rien à craindre de la part de l'ennemi. Continuez à transmettre le message et en fin de compte, il a déclaré qu'il est prompt à prendre des comptes. Cela ne veut pas dire qu'il châtie immédiatement. Lorsqu'il a décrété de demander des comptes, il châtie immédiatement. Il n'est pas l'homme qui ne peut pas accomplir deux choses à la fois. Et personne ne peut arrêter son commandement ou son jugement. À propos du sujet « Anna natial arda nankusuha min atrafiha » Allah déclare dans un autre verset « Bal matta'na haula'i wa aba'ahum » حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ. Non, nous avons accordé à cela et à leur père la jouissance des bénéfices temporaires jusqu'à ce que la vie devienne longue pour eux. Ne voient-ils pas que nous avançons sur leur territoire en le réduisant à partir de ces parties éloignées? Peuvent-ils malgré cela avoir le dessus? Si un peuple arrive à vivre longtemps ou qu'il jouisse d'une longue période de suprématie et qu'ils en sont orgueilleux, cela ne veut point dire que maintenant cet état de suprématie sera permanent. Allah déclare que nous leur avons accordé bénéfices à eux et à leurs aïeux, à leurs pères. Et ils possèdent de grandes richesses, et ils ont amassé de grands trésors. Mais sachez aussi que les peuples d'antan ont été détruits. De grandes puissances dans le passé ont été détruites et leurs frontières ont été réduites. Voyons un peu dans le passé récent. Les puissances européennes avaient établi leur suprématie dans le monde. Les frontières de l'Empire britannique s'étendaient au-delà des mers. Ils avaient conquis plusieurs terres, mais nombre de ces pays ont retrouvé leur indépendance. Les frontières de la Russie s'étendaient sur de vastes contrées, mais certains de ces États de l'ex-URSS ont retrouvé leur indépendance. Ce même décret se répétera dans le cas de l'Amérique. Puisque ces grands pays ne sont pas à l'abri, en quoi les petits pays placent-ils leur confiance? Leurs assemblées nationales ont-elles le droit d'être orgueilleuses? Ils sont tous voués à disparaître. Mais il y a de bonnes nouvelles pour l'islam. Il y a de bonnes nouvelles pour les vrais musulmans. Il y a de bonnes nouvelles pour les suivants du Messie promis à l'islam. À savoir qu'avec la venue du Messie, du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'islam va se répandre jusqu'aux confins de la terre. Notre tablir, notre prédication est un effort insignifiant. Dieu a décrété que l'islam aura la victoire, Inch'Allah. Mais cette victoire va se faire par la transmission du message avec amour et avec des prières. Voilà donc notre responsabilité à nous. Dieu seul sait ce qu'il va décréter. Et nous en voyons quelques aperçus dans le monde lorsque frappent les calamités. Il y a des tempêtes, des séismes, des destructions. Tout cela démontre le décret de Dieu. Si seulement les musulmans pouvaient faire partie de ce décret de Dieu et comprendre que l'islam aura la suprématie par l'entremise de la Jamaat du Messie promis à l'islam, et qu'ils fassent aussi partie de cette communauté et cessent leur opposition afin de faire partie de ce décret. Toutes ces calamités qui sont en train de frapper le monde sont là pour soutenir les déclarations du Messie promis à l'islam. Certains disent que ce sont les grands chefs des incroyants qui sont coupables d'antagonisme. Ce sont eux qui sèment la zizanie et les dissensions, mais ce sont les faibles et les pauvres qui sont frappés de calamités. Le Messie premier, l'Islam, a répondu à cette objection. Il déclare à ce propos, « Selon la pratique de Dieu, lorsqu'on outrepasse les limites dans le rejet d'un véridique qui vient de la part de Dieu ou lorsqu'on le fait souffrir, le monde est frappé de diverses calamités. Voilà ce qu'on dit dans les livres de Dieu et voilà ce que proclame le Saint-Coran. À l'instar des plaies qui ont frappé l'Égypte lorsqu'on a renié ou rejeté Moïse, il y a eu des grenouilles, la grêle, le sang, la famine. Alors que les habitants des contrées éloignées de l'Égypte ignoraient tout à propos de Moïse, alors qu'ils n'avaient commis aucun péché. Et tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts, alors que Pharaon lui-même fut à l'abri de ces calamités pendant une longue période. Et ceux qui ignoraient tout ont souffert en premier. Et à l'époque de Jésus-Christ, ceux qui ont voulu crucifier ou tuer Jésus-Christ sur la croix n'ont pas subi la moindre perte, et ils ont vécu dans le confort. Mais après 40 ans, Titus le Romain a fait tuer des milliers de Juifs, et il y a aussi eu une épidémie de peste. Et le Saint-Coran déclare que ces calamités sont le résultat du rejet de Jésus-Christ. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, 7 ans de famine a frappé la Mecque et la majorité de ceux qui ont souffert de cette famine étaient des pauvres. Et les chefs mécois, les fauteurs de troubles, furent à l'abri de ce châtiment pendant longtemps. Telle est la pratique de Dieu lorsque quelqu'un vient de la part de Dieu et qu'il est rejeté. Lorsqu'il est rejeté, d'innombrables calamités frappent la terre et la majorité d'entre ceux qui sont frappés de ces calamités n'ont joué aucun rôle dans le rejet du prophète. Et au fil du temps, petit à petit, ce sont les chefs qui sont attrapés et en fin de compte, les grands meneurs sont châtiés. Voilà ce qu'indique Dieu lorsqu'il déclare que Inna na'tiyal arda nanqusuha min atrafiha. C'est-à-dire, nous approchons petit à petit en venant des contrées les plus éloignées. Voilà donc ma réponse à ces détracteurs qui déclarent que ce sont les mollahs qui m'ont rejeté, mais ce sont les pauvres qui sont frappés de la peste. Et des centaines de personnes sont mortes dans des séismes qui ont frappé certaines régions de l'Inde. Quel fut le crime commis par ces personnes? Est-ce qu'ils m'ont traité de menteur? Sachez donc que si un envoyé de Dieu est traité de menteur par une couche spécifique de la société ou dans une région spécifique de la terre, lorsque la colère de Dieu est attisée, c'est un châtiment général qui frappe et du ciel tombent des calamités qui frappent tous les gens. Et dans la plupart des cas, les véritables fauteurs de troubles sont attrapés en dernier, tout comme ce fut le cas concernant Moïse et Pharaon. Ce sont les pauvres et les indigents qui ont souffert en premier, mais en fin de compte, Dieu a noyé Pharaon et son armée. Voilà donc la pratique de Dieu et aucune personne au courant de ces faits ne peut nier cela. Quelques jours auparavant, un séisme a frappé le Chili et 2 mois auparavant, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Le séisme qui a frappé le Chili était 64 fois plus violent que le séisme de Haïti. Tout cela vient soutenir les déclarations du Messie premier à l'Islam. Je vais citer un autre dire du Messie premier al-Islam concernant le même sujet. Il déclare que, à propos de l'épidémie de la peste, certaines personnes disent que la majorité des victimes sont des personnes pauvres et sans soutien et que les riches et les nantis sont à l'abri. Selon la sunna de Dieu, les chefs des mécréants sont attrapés en dernier. Les plaies qui ont frappé l'Égypte n'ont pas affecté Pharaon. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. C'est-à-dire, au début, c'est la masse qui est affectée et les élites sont attrapées plus tard. Selon la sagesse de Dieu, certains vont se repentir en fin de compte ou certains de leurs enfants vont accepter l'islam. Je parlais donc du tremblement de terre qui a frappé le Chili. Ce séisme était 64 fois plus violent que le séisme qui a frappé Haïti. 1 500 000 maisons ont été affectées ou sinistrées et 500 000 maisons ont été détruites. Ce fut le 7e séisme le plus violent dans l'histoire connue du monde. Il y a d'autres informations qui ont été données par les scientifiques. On dit qu'en raison de ce séisme, la journée de 24 heures a été réduite par 1,26 millisecondes. Cela se passe dans le cas de tous les séismes et selon les scientifiques, l'axe de la Terre a bougé par 7 ou 6 cm. Cet axe, c'est l'axe de la masse de la Terre. et cet axe a basculé par environ 7 à 8 cm. Cet axe, c'est l'axe qui maintient l'équilibre de la Terre. Et après chaque séisme, il y a des changements. Voilà donc comment on est en train de réduire la Terre. Et il y a aussi des prévisions concernant le changement climatique. Le Messie premier l'Islam a déclaré que les séismes sont des signes de sa véracité. On a vu des séismes au cours de sa vie et il y a eu un autre séisme en 1906 au Chili. Lorsqu'il a entendu parler de ce séisme, il a déclaré que c'est un des signes de sa venue. Et depuis qu'on a commencé à relever les mesures concernant les séismes, depuis 1577 jusqu'en 1835, il y a eu 5 séismes ou 5 grands tremblements de terre. Ensuite, en 1868, il y a eu un autre tremblement de terre. Ensuite, il y a eu ce grand tremblement de terre en 1906 au Chili et il avait déclaré que c'était un des signes en sa faveur. Et dans les 300 dernières années, il n'y avait que 5 séismes, mais au cours de ces 100 dernières années, il y a eu 18 grands séismes qui ont frappé le Chili. À propos de ce séisme au Chili, le Messie premier l'Islam déclare que j'ai déjà publié dans les journaux que le monde sera frappé de grands tremblements de terre et la terre sera retournée sens dessus dessous. Le tremblement de terre qui a frappé San Francisco et Formose, selon mes prophéties, sont connues de tous. Le 16 août 1906, il y a eu un grand tremblement de terre en Amérique du Sud, au Chili, et c'était un des plus grands ou des plus violents séismes. Pendant 3 jours, on n'a pas su que cette ville fut frappée de ce séisme. 15 grandes villes ont été détruites et il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur vie. Les sots peuvent dire que est-ce cela un signe de ma venue? Ce séisme n'a pas frappé le Pendjab, mais ils ne savent pas que Dieu est le Dieu de tout le monde, du monde entier, non pas le Dieu du Pendjab. Et il a donné cette nouvelle pour le monde entier. Malheureusement, le Pendjab rejette ces prophéties de Dieu et ils ne méditent pas sur les paroles de Dieu et ils essayent de cacher la vérité. Mais on ne pourra pas cacher cette vérité. Malheureusement, ici, on est en train de rejeter les prophéties de Dieu. Ensuite, il déclare que Dieu m'a averti à propos de ces séismes et de ces tremblements de terre. Et suite à mes prophéties, il y a eu un séisme en Amérique et il y a eu des tremblements de terre en Europe et il y aura ces tremblements de terre en Asie. Et certains vont présenter les signes de l'Apocalypse et il y aura des rivières de sang qui vont couler. Et il y aura de grandes destructions, des destructions inouïes dans l'histoire de l'humanité. Et la plupart de ces contrées seront retournées sens dessus-dessus comme s'il n'y avait jamais eu d'habitants dans ces endroits. Et il y aura d'autres calamités qui vont frapper le monde. Et toute personne douée d'intelligence va comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et ils ne vont pas voir des réponses dans les livres de philosophie et ils seront frappés de désarroi. Certains auront le salut, certains seront détruits. Le jour est proche, ce jour est très proche. Lorsque je vois que le monde sera frappé de ces calamités, de ces tremblements de terre, certains de ces calamités vont descendre du ciel. Tout cela parce que l'homme a abandonné l'adoration de Dieu et parce qu'il a consacré toutes ses ressources à ce bas monde. Si je n'étais pas venu, certaines de ces calamités auront été repoussées. Et avec ma venue, Dieu a décidé de manifester sa colère, tout comme il a déclaré « Wa ma kunna mu'adhabin hatta nab'atha rasula ». C'est-à-dire que nous ne châtions pas avant d'avoir envoyé un prophète. Et le Messie du Saint-Prophète est venu pour le monde entier. Il déclare que ceux qui vont se repentir trouveront la paix. Croyez-vous que vous serez à l'abri de ces tremblements de terre? Non, les œuvres de l'homme ne serviront à rien ce jour-là. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Je vois que vous serez frappé davantage de calamités. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que « Ô Europe, tu n'es pas à l'abri. Ô Asie, tu n'es pas à l'abri. Ô vous, les habitants des îles, aucun faux dieu ne viendra à votre aide. Je vois des villes détruites. Je vois des habitations vides. Ce Dieu Tout-Puissant est resté silencieux et on a commis des actes immondes devant lui. Mais Dieu va montrer sa gloire avec effroi. J'ai essayé de vous réunir sous la protection de Dieu, mais le décret de Dieu doit s'accomplir. Je dis en toute vérité que ce sera le tour de ce pays. Vous allez voir les scènes de l'époque de Noé, et vous allez voir aussi de vos yeux les incidents de l'époque du prophète de Lot. Repentez-vous afin que Dieu vous fasse miséricorde. Celui qui abandonne Dieu est un insecte et non pas un être humain. Et celui qui ne le craint pas est mort et non pas vivant. Ces avertissements s'adressaient en premier lieu aux habitants de l'Inde et du Pakistan. Qu'Allah fasse que les hommes puissent reconnaître l'envoyé de Dieu et puissent se protéger de sa colère. Que nous puissions, quant à nous, transmettre le message de l'islam véritable. Et qu'Allah enlève tout obstacle sur notre voie et qu'il renforce notre foi. Qu'il fasse que nous soyons point effrayés et que nous n'arrêtions point notre tâche. Qu'Allah nous en donne la possibilité.